Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est félicité ce matin de la réussite de l'Euro, au moins sur le plan sécuritaire, si ce n'est sur le plan sportif. Le pire n'aura donc pas eu lieu, malgré les fortes menaces terroristes, qui continuent d'ailleurs de peser sur le Tour de France, dont l'arrivée est prévue le 24 juillet. Des événements sportifs exceptionnels qui ont justifié le maintien, nous a-t-on dit, de l'état d'urgence, dont la levée devrait être décidée le 26 juillet. L'état d'urgence aura alors duré 8 mois. C'est l'occasion de se pencher sur l'ensemble des décisions et des mesures prises pour lutter contre la menace terroriste. Et pour cela, on peut s'appuyer sur un rapport important, celui qu'a présenté le 5 juillet dernier la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur, je cite, « les moyens mis en œuvre pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 ». Il sera ce rapport rendu public demain, mais 39 propositions ont déjà été dévoilées et un certain nombre d'éléments ont fuité dans la presse. Il s'agit de comprendre ce qui a pu dysfonctionner, de trouver des pistes d'amélioration de la lutte contre le terrorisme. Mais connaît-on vraiment aujourd'hui à la fois l'état de la menace terroriste et les meilleurs moyens d'y répondre ? Antiterrorisme, l'impossible risque zéro, c'est notre sujet du jour. Et trois invités autour de la table pour en parler ce soir. Guillaume Larrivé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Les Républicains de Lyon, vous êtes membre de la commission des lois et vous avez été le vice-président de cette commission FENEC, cette commission d'enquête sur les événements qui ont tragiquement touché la France et voilà, dont il faut tirer aujourd'hui toutes les conclusions. À côté de vous, Marc Ecker, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI et vous êtes le rédacteur en chef de Politique étrangère. À ce titre, vous nous éclairerez aussi sur la façon dont la France, que la question de l'antiterrorisme, elle se situe pas évidemment à l'intérieur de nos frontières exclusivement. Il faut aussi voir comment la France se situe par rapport à ses voisins européens et par rapport au monde en général. Et d'ailleurs, il y a des propositions en ce sens dans le rapport de la commission d'enquête. Et enfin, Pierre Alonso, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, journaliste à Libération, spécialiste des questions de renseignement et de défense. Et vous avez publié, je dois dire, un article qui m'a été très utile pour préparer cette émission, puisqu'il y fait un petit peu, le récapitulatif de l'ensemble des services qui sont en charge d'assurer à la fois le renseignement, la surveillance, enfin la sécurité des Français, un nombre d'acronymes dont on ne peut, dont on n'a pas idée. Enfin, c'est très difficile de s'y retrouver. On va essayer nous d'être pédagogiques ce soir pour nos auditeurs. D'autant plus que Guillaume Larrivé, je me tourne d'abord vers vous puisque vous avez participé à cette commission d'enquête. Il y a un certain flou malgré tout toujours sur l'état véritable de la menace terroriste qui pèse sur la France. On nous dit qu'elle est forte en effet, mais est-ce qu'on sait véritablement aujourd'hui d'abord, l'état de cette menace, et ensuite, est-ce qu'on a une idée claire de l'efficacité des réponses qu'on peut lui apporter ?
La menace, à l'évidence, elle est très élevée parce qu'un ennemi nous a déclaré une forme de guerre. Une guerre très atypique, une guerre qui n'est pas la guerre d'un état constitué en tant que tel contre la République française, mais une guerre, et cette guerre, elle a comme particularité qu'elle se déroule à la fois sur un théâtre extérieur, cette zone irako-syrienne et bien au-delà d'ailleurs, et sur le théâtre intérieur, sur le sol national. Et en 2015, la France a été frappée et des Français ont été tués, attaqués par cet ennemi. Une des très grandes difficultés auxquelles les pouvoirs publics, et notamment le pouvoir exécutif en premier lieu, doivent faire face, c'est que parmi cet ennemi, il y a un certain nombre d'individus qui ont la nationalité française, qui pour partie d'entre eux se trouvent sur le territoire national, mais font aussi des allers-retours possibles avec la zone irako-syrienne, interviennent là-bas parmi les foreign fighters, comme on dit. Bref, la frontière entre menace extérieure et menace intérieure est de plus en plus diffuse. Le ministre de la Défense, d'ailleurs, l'a très bien compris et l'a exposé dans un essai tout à fait éclairant qu'il faut lire, qui est publié aux éditions du CERF, qui s'appelle « Qui est l'ennemi ?». L'ennemi, il a beaucoup évolué. Et notre job à nous, législateurs, parlementaires, c'est d'adapter les instruments de l'état de droit pour répondre à cette menace. Je crois profondément que l'état de droit doit être fort. S'il est faible, il n'est plus l'état, il fait plus son job d'état, c'est-à-dire d'assurer la sécurité.
C'est ce qu'on va détailler, Guillaume Larrivé, pendant cette émission, mais je continue le tour de table pour commencer, Marc Ecker, sur cette question de l'état de la menace.
L'état de la menace, effectivement, est élevé, c'est difficile de quantifier une menace, mais enfin, je vais essayer.
Il y a trois sources essentiellement de menaces liées à la mouvance djihadiste. Première source, la Syrie et l'Irak. On a un phénomène d'une ampleur sans précédent de Français qui sont partis sur place. Deuxième source, les anciennes filières djihadistes, puisque le phénomène du djihadisme n'est pas récent. On a des Français qui en fait sont partis en Bosnie, en Tchétchénie, en Irak précédemment, en Afghanistan du temps des talibans, etc. Mais en nombre bien moins élevé. Et troisième source, c'est ce qu'on appelle de manière un peu impropre l'autoradicalisation. Ce sont des personnes qui se sentent inspirées par l'idéologie djihadiste et qui décident de passer à l'acte tout seul sur le territoire national. Un chiffre. De 1990 à 2010, il y a environ 200 Français qui quittent la France, qui partent faire le djihad à l'étranger, qui reviennent et qui ont des ennuis avec la justice. Maintenant, pour la période la plus récente, sur les trois dernières années, ou disons les quatre dernières années, on a plus de 1200 Français qui sont partis en Syrie et en Irak. Une partie est toujours sur place, une partie est rentrée, une partie est morte. Donc on sait que la menace est effectivement beaucoup plus élevée que par le passé.
Pierre Alonso, pour répondre à cette menace, il y a différents services. Alors vous, dans votre article, on voit, hein, il y en a qui dépendent du ministère de l'Intérieur, d'autres qui dépendent de l'Élysée, d'autres qui dépendent de Matignon. Tout ça est assez complexe. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, on va dire, une articulation des services en charge de nous protéger, d'identifier, de nous renseigner sur l'état de cette menace? Est-ce que ces services marchent de façon satisfaisante?
De façon satisfaisante, probablement pas. Et la preuve tragique sont les deux attentats, enfin les deux plus importants attentats qui ont eu lieu en 2015. Et c'est d'ailleurs les chefs de service eux-mêmes qui le disent. Bernard Bajolet pour la sécurité extérieure, donc le service de renseignement extérieur français qui dépend du ministère de la Défense, et son homologue à l'intérieur, Patrick Calvar, qui parlent tous les deux d'un échec du renseignement qui ont conduit, bien évidemment, aux attentats de janvier et de novembre. Pourquoi c'est un échec? Bah, tout simplement parce que le but du renseignement et de l'antiterrorisme, c'est d'empêcher un attentat. Donc dès lors qu'un attentat a lieu, ils le considèrent comme un échec. Et depuis 2012, l'exécutif et le Parlement ont consenti des efforts importants pour les services de renseignement, mais des efforts qui sont principalement quantitatifs. Il y a des budgets qui sont accordés, il y a des effectifs qui sont très largement augmentés dans quasiment tous les services, sans pour autant repenser l'articulation des services de renseignement. Et c'est justement là-dessus que la commission d'enquête est assez novatrice et qu'elle apporte une réflexion, même si elle est probablement pas aboutie, mais qui apporte le début d'une réflexion.
Oui, Guillaume Larrivé, 39 propositions, je l'ai dit, c'est beaucoup, ça va dans beaucoup de sens, la question du recrutement, de la formation, à la fois de la police, des gendarmes, de l'armée, mais aussi des services, judiciaires. Voilà, il y a l'organisation, la coordination du renseignement, on va même jusqu'à réfléchir à une présence française plus importante en Irak au sol. Bref, il y a beaucoup de choses. Est-ce que malgré tout, on peut dire qu'aujourd'hui, le problème numéro un qui a été identifié par cette commission d'enquête, c'est l'organisation des services?
C'est un des problèmes. À cet égard, je voudrais faire deux remarques. La première, il faut bien comprendre, il faut bien que nos auditeurs comprennent que les services français sont d'abord les héritiers d'une logique d'espionnage ou de contre-espionnage qui est une logique verticale et cloisonnée. Un espion, spontanément, ça ne partage pas de l'information. Au contraire, ça la cloisonne. Et en réalité, la problématique de l'antiterrorisme, c'est une problématique qui est plus horizontale, où il y a la nécessité de mettre en relation différents éléments. Et à partir de cette analyse, on voit bien que l'organisation relativement traditionnelle de nos services, sans entrer dans les détails, c'est plutôt une organisation en tuyau d'orgue, une organisation verticale. Faut-il procéder à un Big Bang organisationnel? Je ne le crois pas. Pour une raison assez simple, et je le dis comme député, mais aussi comme ancien directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur il y a déjà quelques années, je pense que le temps qu'on prend à réorganiser des services, le temps qu'on prend à faire du mécano administratif, ça peut aussi être du temps perdu sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le recueil du renseignement, c'est surtout son analyse. Et à cet égard, je voudrais vous dire que, contrairement à certains de mes collègues, je parle moins d'une faille des services de renseignement que d'une faille du traitement des renseignements recueillis. Pour le dire de manière plus simple, il y a énormément d'informations qui sont recueillies sous forme de renseignements humains ou par des moyens techniques. Il y a toute une masse d'informations et on a donné comme législateur au service d'ailleurs des moyens juridiques nouveaux pour recueillir des informations. Le vrai sujet, c'est cette information, de la traiter et d'être capable de détecter, de cibler, de cribler les individus les plus dangereux qu'on va vouloir mettre hors d'état de nuire avant qu'ils ne passent à l'acte. Et je pense que la question centrale, c'est ça. À partir de cette masse d'informations, comment on fait pour l'analyser, pour la traiter et pour mettre hors d'état de nuire au plan judiciaire ou avec d'autres moyens pour neutraliser en réalité ces individus extrêmement dangereux avant qu'ils ne passent à l'acte. Et ce qu'on voit, pardon, c'est qu'en 2015, on voit que tous les Français, je parle bien des Français, tous les Français qui ont été impliqués comme auteurs dans les actes de janvier ou de novembre 2015 étaient connus d'une manière ou d'une autre par les services de l'État, qu'il s'agisse de la pénitentiaire, des judiciaires ou des services de renseignement stricto sensu. Et la faille collective, la faille d'organisation, c'est qu'on n'a pas été en situation de les arrêter en réalité avant qu'ils ne commettent ces actes. À mon avis, c'est ça le cœur du problème national. Il y a un autre problème, mais je vais pas être trop long, c'est évidemment un problème d'ordre européen ou d'ordre international. Je considère, et je le dis avec une certaine gravité, que le chaos migratoire, le chaos organisationnel de Schengen a été un facteur d'aggravation considérable du risque. La preuve en est que parmi les auteurs des attentats de novembre, parmi très précisément ceux qui se sont fait sauter au Stade de France, vous avez des étrangers qui étaient arrivés quelques semaines auparavant via l'Eros, via une des îles grecques, avec de faux passeports syriens. Il y a eu une faille organisationnelle absolument terrible là-dessus.
Malgré tout, comme vous l'avez fait remarquer, Guillaume Larrivé, ces terroristes étaient essentiellement des terroristes français ou belges qui possédaient des passeports nationaux. Et donc, je ne sais pas si véritablement cet angle des migrations, des filières migratoires, est vraiment la plus pertinente.
C'est un angle important. Et vraiment, je le dis de manière tout à fait technique et de manière tout à fait froide. Vous verrez à la lecture détaillée du rapport qu'il y a là un gros sujet. Il faut attendre décembre 2015 pour que Europol et Frontex, les deux agences en réalité européennes chargées pour l'une de la police et l'autre des migrations, il faut attendre décembre 2015 pour qu'elles passent un protocole d'accord pour commencer à s'organiser, pour voir si dans le flux des migrants, il n'y a pas une difficulté. Ce que démontre également le rapport, c'est qu'en réalité, 1 800 000 franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union européenne en 2015, tout ça s'est fait sans aucun contrôle d'identité effectif. Il y a quand même un vrai sujet.
Marc Ecker. Beaucoup de choses dans ce qui vient.
Il y a beaucoup de choses.
Mais peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on passe sur cette question internationale finalement de comment la France se passe par rapport à l'Europe, par rapport au monde et comment cette question peut-être des migrations vient jouer sur la question de la sécurité.
On ne peut nier une réalité qui est que certains terroristes du 13 novembre se sont glissés dans les flux de réfugiés. Effectivement, une fois qu'on a dit ça, comment peut-on aller plus loin? Comment peut-on contrôler des flux aussi importants? Tant de personnes, on fait face à une situation catastrophique en Syrie et en Irak, des personnes veulent fuir par millions, comment on gère ça? C'est un problème, effectivement, je pense qu'on ne peut pas blâmer les politiques de ne pas avoir su immédiatement gérer un problème d'une telle ampleur. Maintenant, on ne peut nier effectivement qu'il y a une dimension sécuritaire dans cette crise des réfugiés. Mais j'aimerais revenir sur le point précédent parce qu'en fait, je suis assez d'accord. Je pense que une des questions clés, c'est quel modèle de société veut-on par rapport à cette question du terrorisme et de la lutte antiterroriste. Parce que effectivement, je trouve que les services n'ont en fait pas été si défaillants que ça. Les individus étaient identifiés. Maintenant, une fois qu'on les a identifiés, que peut-on faire? Qu'est-ce que le droit nous permet de faire? Et puis j'allais dire que c'est même un problème de philosophie politique. Que souhaite-t-on faire une fois qu'on a identifié une personne comme radicalisée? Est-ce qu'on souhaite la mettre en rétention administrative? Est-ce qu'on souhaite l'écarter pendant des années et des années de la société? Ça pose même le problème des personnes condamnées, qui elles sont identifiées comme radicales et parfois sont même passées à l'acte. Ces personnes-là, on sait qu'elles vont sortir au bout de quelques années, mais on sait aussi qu'une partie d'entre elles reste dangereuse. On l'a vu avec Larossi Abala récemment, on l'a vu avec Chérif Kouachi. Pour avoir lu le jugement de la filière des Buttes-Chaumont, je peux vous assurer que ça fait un peu froid dans le dos quand on voit le profil des co-accusés. Certains sont dans la nature aujourd'hui. Bon, que fait-on de ces individus-là? Ils ont purgé leur peine. Normalement, il y a une sorte de pouvoir rédempteur de la prison. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas, donc qu'est-ce qu'on fait?
Pierre Alonso, sur cette question peut-être de la réponse et de la réponse judiciaire, la réponse pénale finalement à la question aux questions de terrorisme.
La réponse pénale, elle est quand même assez dure, et depuis au moins 96, les textes antiterroristes s'empilent. Je pense que Monsieur Larrivé peut en témoigner. Depuis 2012, il y a quasiment et même plus d'un texte antiterroriste qui est voté tous les ans qui durcit la réponse pénale. Il y a eu d'abord une loi en octobre 2012 qui pénalisait le fait de se rendre à l'étranger, de rejoindre des groupes djihadistes à l'étranger, bon, ce qui était déjà condamnable par ailleurs, mais qui facilitait les poursuites. Ensuite, il y a la loi de programmation militaire qui comprend des mesures antiterroristes. La loi Cazeneuve de 2014 et ainsi de suite. La loi Cazeneuve de 2014 qui crée d'ailleurs un délit qui est extrêmement peu utilisé, qui est l'association de malfaiteurs individuels, en gros. Enfin, très souvent, il y a des demandes qui sont faites, y compris par la justice antiterroriste, par les juges antiterroristes.
Est-ce que vous voulez dire par là que les outils judiciaires sont en place? Le problème, c'est plutôt comment on s'en saisit?
C'est probablement comment on s'en saisit, ou l'adéquation des outils qui sont trouvés avec la réalité de ce phénomène, qui dépasse probablement le seul cadre de la criminalité. Politisée, enfin, puisque c'est quand même ça le terrorisme. C'est des criminels qui se réclament d'une cause politique.
Guillaume Larrivé.
Ces textes juridiques qu'évoque Pierre Alonso à juste titre ont été élaborés pour la plupart d'entre eux dans un climat qui n'était pas un climat partisan. J'ai moi-même été co-rapporteur de la loi antiterroriste de 2014. Le rapporteur était Sébastien Pietrasinta, député socialiste. Et j'étais co-rapporteur de la loi sur le renseignement. Le rapporteur, c'était Jean-Jacques Urvoas, député socialiste à l'époque. Donc on n'a pas, n'est-ce pas, élaboré ces textes dans un esprit partisan. Reste que, je considère qu'il y a encore deux angles morts dans la réflexion. J'ai essayé de faire avancer depuis quelques années la réflexion sur ces sujets, mais je voudrais les exposer aussi clairement que possible. Premièrement, sur le volet judiciaire, je considère qu'il n'est pas raisonnable que les détenus pour faits de terrorisme, il y a environ 100 condamnés aujourd'hui en prison pour terrorisme et 300 prévenus pour terrorisme. Je considère qu'il n'est pas raisonnable que cette masse d'environ 400 personnes se voit appliquer des règles de droit commun s'agissant de l'exécution des peines. J'ai démontré, par exemple, dans un rapport, il y a deux ans déjà, qu'en 2012, 2013, 2014, vous avez eu 56 terroristes condamnés qui ont fait l'objet de mesures de libération anticipée. Je considère que ça n'est pas raisonnable et que nous devrions supprimer ces régimes de réduction et ou d'aménagement de peine pour ce champ des détenus terroristes. J'ai pas encore été suivi là-dessus par la majorité, c'est pas faute d'avoir déposé des amendements. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème judiciaire, les post-peines. Là aussi, on a un débat avec la majorité. Je considère, un peu comme le chercheur de l'IFRI vient de l'esquisser, en tout cas comme problème, je considère qu'il faudrait envisager, pour certains détenus les plus dangereux, les plus susceptibles de porter à nouveau atteinte à la sécurité nationale, un régime de rétention post-peine. C'est très dérogatoire par rapport aux catégories habituelles du droit commun. Ça existe un peu en matière de crimes pédophiles depuis une loi de 2008. Je pense que un régime de rétention judiciaire post-peine devrait être envisagé. Troisième et dernière remarque, je fais ça très rapidement, et là c'est encore plus novateur et j'en ai parfaitement conscience. Je pense que pour certains individus particulièrement signalés, particulièrement repérés, ce qui suppose effectivement d'avoir des critères objectifs de criblage extrêmement fins pour pas faire n'importe quoi. Je pense qu'une mesure de police administrative, c'est-à-dire préventive, de rétention, c'est-à-dire d'enfermement très concrètement, sous le contrôle naturellement d'une autorité judiciaire, je pense qu'un régime de rétention fermée est nécessaire pour un certain nombre d'individus qui sont pas totalement dans le haut du spectre, parce que cela doit être en prison, mais qui sont quand même dans une espèce de zone grise extrêmement dangereuse. Je sais que c'est novateur, j'ai déposé une proposition de loi à cet égard quelques semaines.
Marc Eckert, sur ce que vient de dire Guillaume Larrivé, avec cette idée donc que l'outil pénal, l'outil judiciaire, la réponse après que les djihadistes soient revenus en France par exemple, reste un point un peu noir, ou en tout cas peu...
Évidemment, ça pose tout un tas de problèmes. Hein. L'idée de rétention post-peine, moi, m'inquiète un peu. te dire. Pourquoi ne tout simplement ne pas avoir des peines plus longues à ce moment-là, si on estime qu'il y a un problème de durée et qu'il faut enfermer durablement une personne, l'écarter de la société? Mais à ce moment-là, quelle durée? Enfin, ce sont vraiment des problèmes de fond qu'il faut qu'on se pose collectivement. J'ai demandé un certain nombre de...
Je peux vous répondre là-dessus?
Oui, allez-y.
Sur la durée, je vous avais tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté au mois de février un amendement qui, in fine, a été adopté, hein, qui est intégré dans une loi de juin 2016, sur ce qu'on appelle communément la perpétuité incompressible. Hein, c'est-à-dire la perpétuité réelle pour les crimes terroristes.
Mais qui reste limitée à 25 ans de toute façon.
Mais ça, c'est pour l'avenir, par définition. C'est pas pour le stock. Et ça, c'est une difficulté énorme qu'on a.
Oui, mais le problème n'est pas tant celui-là. En fait, comme l'a dit Pierre Alonso, le dispositif antiterroriste a été un empilement de normes depuis, disons, une vingtaine d'années. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert la possibilité au juge de condamner les personnes très en amont. Maintenant, on peut même condamner des personnes depuis le 3 juin 2016 pour consultation de sites web faisant l'apologie du terrorisme.
Absolument.
Des personnes comme ça, vous n'allez pas les écarter pour 20 ans. Vous allez les écarter, ce que dit la loi, au maximum pour 2 ans. En pratique, ce sera sans doute beaucoup moins. Que se passe-t-il ensuite en prison pour ces personnes-là? Une personne qui a consulté un site web radical, qui est condamnée à quelques mois de prison, vous n'allez pas lui infliger une rétention post-peine, à moins que ce soit là votre idée, je ne sais pas.
Non, la rétention post-peine.
Et après, j'aimerais entendre quand même Pierre Alonso
ce serait pour des crimes terroristes. Mais en réalité, on voit bien qu'on a besoin, d'une palette d'instruments, puisqu'il y a toute une gradation des comportements. Mais la difficulté, et au risque d'ajouter encore de la complexité à mon propos, mais la difficulté, c'est que vous avez, et on le voit avec les auteurs de ces attaques, une sorte d'hybridation entre celui qui est dans la basse intensité à un moment, mais qui va basculer dans l'hyperviolence terroriste sans qu'en réalité, il ait pu être véritablement repéré comme tel. C'est toute la difficulté de cet ennemi extrêmement mouvant, extrêmement mobile, qui passe en réalité de la délinquance de droit commun au crime hyperterroriste quasiment dans la semaine.
Une toute petite réaction très rapide pour ajouter encore à la complexité. J'ai pu parler à des psys qui interviennent en prison et qui m'ont raconté qu'un des terroristes qui est récemment passé à l'acte en France était, je cite, un probationnaire parfait. Donc là, on a vraiment une difficulté en plus.
Avec des tactiques de dissimulation.
Pierre Alonso, sur ce qui vient d'être dit.
Justement, quand on voit la trajectoire des djihadistes français ou d'ailleurs belges qui ont frappé la France en 2015, il y en a quand même beaucoup qui sont passés par la casse-prison. Alors peut-être que une peine deux fois plus longue les aurait écartés de ce chemin, mais c'est quand même pas ce qui ressort de leur trajectoire et de ce qu'ils ont fait après. Donc, quel est le rôle de la prison dans ces cas-là? Est-ce que c'est d'éloigner le plus longtemps possible? Vous parlez de tout l'état de droit, mais là, c'est vraiment en utilisant l'élasticité maximale de l'état de droit au risque de le rompre, auquel cas on bascule dans quelque chose d'autre. Ou est-ce que juste la prison doit être là pour sanctionner des actes, et une fois que la peine est terminée, la peine est terminée?
Pierre Alonso, juste, je voulais aller un petit peu plus profondément dans ce rapport d'enquête. Il y a notamment cette question du renseignement pénitentiaire, par exemple. Vous dites, est-ce qu'il suffit juste d'éloigner? Est-ce qu'il suffit juste d'enfermer? Mais aussi, la question se pose, une fois que les suspectés, apprentis, c'est toujours difficile de dire djihadistes, parce qu'a priori, une fois qu'ils sont passés à l'acte, ils ne vont plus en prison, puisque dans l'ensemble, à part Salah Abdeslam, ils finissent tous par mourir de leur action. La question du renseignement pénitentiaire, est-ce que ça aussi, dans vos enquêtes, dans ce que vous pouvez étudier de la façon dont fonctionne le renseignement en France, ça fait partie des points à améliorer absolument?
C'était très clairement un angle mort. Donc il y avait des gens qui généralement étaient d'abord suivis en police administrative, donc ce qui est le nom un peu barbare pour dire renseignement. Puis quand, si nécessaire, un juge prenait la suite, donc c'était une procédure judiciaire, menant souvent à condamnation. Et là, en prison, très souvent, plus personne, ou alors seulement pour des questions presque de maintien de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, mais sinon plus personne ne suivait ces détenus. Et y compris à la sortie. Donc à la sortie, on pouvait avoir des gens qui ressortaient sans... très bien, sans que les services soient forcément informés de son état d'esprit au moment de la sortie. Est-ce que il avait été prosélyte en prison? Est-ce qu'au contraire il y avait une forme de repentir, c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'éloignement vis-à-vis du djihad?
C'est le problème toujours de la déradicalisation et de savoir comment l'évaluer. Guillaume Larrivé, lors des auditions pour cette commission d'enquête, le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas a déclaré que ce système justement de renseignement pénitentiaire était, je cite, en panne, inopérant et ne faisait pas remonter les informations concernant la radicalisation. Absolument. En prison, ce que vient de dire Pierre Alonso. Pourtant, les outils sont là, encore une fois.
Non, les outils ne sont pas là. Alors, pour le coup, je me le dis de manière très calme, avec une forme de colère contenue, il y a eu un retard à l'allumage et une vraie faute politique au sens plein de la garde des Sceaux précédente. Je vais vous le démontrer. En octobre 2014, comme rapporteur de la commission des lois, j'ai produit un rapport sur l'administration pénitentiaire dont le cœur consistait à dire il n'y a pas de renseignement pénitentiaire. C'était en octobre 2014. C'est bien avant Charlie, c'est bien avant les attentats du Bataclan. Et lorsque j'ai présenté ce rapport sous la présidence de Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois, à Madame Taubira, garde des Sceaux, je me suis fait, pardonnez-moi l'expression, complètement envoyer sur les roses, sur le thème circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, le renseignement pénitentiaire ça existe, il n'y a aucun problème. Bon. En réalité, il y a eu un retard absolument considérable dans l'organisation des services sur cette question, parce que dans la masse des 67 000 détenus qui se trouvent aujourd'hui dans les 189 établissements pénitentiaires français, il y a évidemment la nécessité de recueillir du renseignement, c'est-à-dire d'identifier qui voit qui dit quoi à qui. Tout ça est évidemment très compliqué parce qu'il y a des tactiques de dissimulation, il y a aussi des gens qui ont un profil de détenus modèles mais qui en réalité ne le sont pas du tout, mais il faut effectivement professionnaliser tout ça, recourir à un certain nombre de techniques, de sonorisation, d'examens, veiller à éviter que des téléphones portables circulent, etc., etc. Il y a mille problèmes et l'amorce de début d'esquisse de service de renseignement pénitentiaire qui existait au sein de la direction de l'administration pénitentiaire depuis 2003, tout ça est complètement inopérant. Jean-Jacques Urvoas, qui est lucide, lui, contrairement à Mme Taubira, nous a dit que 4 mois après son arrivée à la chancellerie, son administration n'avait pas été capable de lui produire une note d'analyse de la radicalisation islamiste dans les prisons. Voilà la réalité. Il y a là une faille absolument majeure qu'il faut absolument combler.
Pierre Alonso.
C'est ce que décrit M. Larrivé, à mon sens, l'un des travers de l'approche de l'antiterrorisme. C'est qu'on est encore une fois dans une réflexion de quantité. Il faut plus de renseignements pénitentiaires. Mais qui le fera ? Parce que est-ce que c'est aux surveillants de du coup se transformer
On a bien vu cette question en agent
parce que c'est pas quelque chose qu'on improvise.
Non mais bien
donc,
sûr,
ça mérite une réflexion de fond.
Mais la réflexion de fond, elle existe. Et pour le coup, les rapports sont empilés. Donc lisez mon rapport d'octobre 2014. Il y a le rapport de la commission d'enquête. Il y a eu des travaux de Jean-Jacques Urvoas, député, lui aussi, etc. Donc les rapports se sont empilés. Non, en réalité, ce qu'il faudrait faire émerger, c'est un véritable service d'enseignement pénitentiaire, des agents spécialisés qui partageraient une culture commune du renseignement. Et on a un outil pour ça qui s'appelle l'Académie du renseignement. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils dialoguent avec les gens de la DGSI ou d'ailleurs, qu'ils soient capables d'analyser les choses. On voit bien, quand on a été au ministère de l'Intérieur, on sait ce que c'est qu'une note de renseignement. La DGSI vous produit des notes qui sont des notes intelligentes, très structurées, qui ressemblent parfois d'ailleurs à des travaux quasiment universitaires. Bon, et tout ça, ça n'existe pas au sein du ministère de la Justice, au sein de la pénitentiaire. Et c'est ça qu'il faut réussir à créer.
Oui, sur la prison, j'aimerais un peu quitter le champ du renseignement, mais rester en prison, pour signaler la publication le mois dernier d'un rapport du contrôleur général des prisons sur la question de la radicalisation en milieu pénitentiaire. C'est extrêmement intéressant, parce qu'une question assez fondamentale se pose, et cette question est la suivante. Faut-il mêler les détenus condamnés pour terrorisme aux autres ? Vous savez que la décision a été prise de faire des expérimentations en France pour les séparer du reste de la population pénitentiaire. Ça s'applique à une partie d'entre eux seulement. Et en fait, ce rapport est extrêmement critique par rapport à ces décisions de mise en unité dédiée, comme on les appelle, les UD, et préconise plutôt de les mélanger au reste. Mais j'avoue que moi, je suis un peu sceptique. C'est-à-dire, j'ai l'impression que si on les laisse au milieu des autres, il va y avoir du prosélytisme. Donc, quelle est la bonne solution ? Encore une fois, on a l'impression de poser tout un tas de questions, mais de pas avoir les réponses. Un chiffre intéressant dans ce rapport, le taux d'occupation à la prison de Fresnes, 197%. Là aussi, il y a un problème.
Difficile, c'est la surpopulation carcérale. Difficile pour isoler, en effet, les prisonniers. Très rapidement, Guillaume Larrivé, parce que j'aimerais qu'on avance un petit peu dans ce débat, mais sur cette question de l'isolement et du rapport d'Aline Nazan, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté.
Alors pour le coup, j'ai moi-même rendu un autre rapport, cette fois en octobre 2015.
Vous êtes très actif, Guillaume Larrivé.
Non, mais qui pose exactement cette question, c'est-à-dire la solution de la dissémination qui consisterait à mélanger me paraît extrêmement dangereuse parce qu'elle est proliférante. Bon, ça veut dire que vous avez une espèce d'agent radicalisateur.
Par donc vous êtes plutôt du côté de l'isolement.
Non, mais par ailleurs, la séparation qui consiste à regrouper les islamistes radicaux en été entre eux, sans les séparer les uns des autres, est extrêmement dangereuse également. Et je suis assez préoccupé de ce qui se passe actuellement dans la prison de Lille-Annelin. Je m'y étais rendu il y a un an avant que ces détenus n'arrivent, et je m'y rendrai dans quelques jours à nouveau pour bien comprendre ce qui s'y passe. Ce que j'avais compris l'année dernière m'avait préoccupé, parce que j'avais vu qu'il y avait deux unités de 14, en réalité, où les 14 détenus pouvaient avoir des contacts entre eux. Et il ne faut pas créer en prison ce qu'on appelle des katibas, c'est-à-dire des cellules de combat où les individus peuvent eux-mêmes s'organiser pour la sortie, sachant qu'en plus tout ça est assez peu imperméable, puisqu'il y a parfois des téléphones portables qui circulent et donc des contacts avec l'extérieur. Donc je suis assez partagé, et je partage plutôt en réalité l'alerte du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Avec cette question ce soir, antiterrorisme, l'impossible risque zéro. Nos invités sont le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé, le chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, Marc Ecker, et le journaliste à Libération, Pierre Alonso. Alors c'est vrai qu'on a, on est parti très vite sur la question de la réponse judiciaire, de l'outil pénal, mais peut-être qu'il faut revenir un petit peu, remonter un petit peu le fil de ce qu'a produit cette commission d'enquête à laquelle vous avez participé, Guillaume Larrivé. Et parmi les questions qui se posent, c'est évidemment qui pour assurer la sécurité des Français. On a parlé du renseignement, il y a évidemment aussi la question de la police, de la gendarmerie, de l'outil militaire et notamment de la façon dont on utilise aujourd'hui dans cette fameuse opération Sentinelle les militaires, parce que ça pose aussi la problématique de comment ils sont utilisés en France et comment ça pèse sur la possibilité d'utiliser les forces armées à l'extérieur. Je vous propose d'écouter au micro d'Alexandre Agege, le collaborateur du Grain à Moudre d'été, Elie Tannenbaum, qui est chercheur à l'IFRI, qui a publié en juin dernier un rapport sur cette question.
Les 10 000 hommes sur le territoire national correspondent grosso modo à 10% des effectifs totaux de l'armée de terre, mais à environ 15% de sa force opérationnelle. La force opérationnelle, c'est-à-dire le nombre d'hommes déployables en un instant donné pour l'armée de terre.
Et alors, est-ce que ce niveau de mobilisation, est-ce qu'il vous paraît viable, ou est-ce qu'il va falloir réorienter à un moment ou à un autre cette mobilisation ?
Au moment où l'opération Sentinelle a été déclenchée en janvier 2015, ce niveau de mobilisation était censé être temporaire et clairement il n'était pas viable pour la mettre dans le cadre de la loi de programmation militaire qui avait été fixée en fin 2013, début 2014. Cela dit, le gouvernement a fait une actualisation de la loi de programmation militaire pour rajouter des effectifs supplémentaires qui devraient permettre de rendre ce niveau de mobilisation viable. Néanmoins, on est quand même dans le cadre là d'une surchauffe opérationnelle importante, puisqu'il faut évidemment ajouter à ces hommes déployés sur le territoire national le grand nombre d'opérations extérieures. Le ministère de la Défense vient de sortir une carte dans laquelle il estimait qu'on était à environ 30 000 militaires déployés en tout et pour tout, opérations intérieures et extérieures, et pas seulement armées de terre. Mais donc on est vraiment dans le cas là d'une surchauffe, d'une activité opérationnelle extrêmement intense, qui pèse sur la ressource humaine avec un nombre de jours d'absence important, évidemment pour les militaires, mais également avec une forte contrainte sur les journées de préparation opérationnelle, c'est-à-dire l'entraînement. Concrètement, on a aujourd'hui une armée qui peut s'entraîner moins qu'elle ne s'entraînait en 2013 ou en 2014.
Marc Ecker, cette opération Sentinelle devrait passer de 10 000 à 7 000 hommes, nous dit-on, une fois que l'état d'urgence sera levé. Malgré tout, ça pèse évidemment sur les forces armées. Alors, cet enjeu de sécurité, il oblige à arbitrer dans la façon dont on utilise nos forces armées entre le territoire national et le territoire extérieur.
Oui, c'est pas qu'une question d'arbitrage, c'est une question fondamentale de perception de la menace et du coup de voir d'un point de vue stratégique comment on y répond. Une des questions à poser, c'est est-ce que la menace en France est militarisée ? Est-ce qu'on a vraiment une guerre sur le territoire national ? La guerre, sans conteste, on l'a à l'extérieur. Mais sur le territoire national, on peut se poser la question. Effectivement, des armes de guerre ont été employées le 13 novembre, et des tactiques de guerre. Face à des kalachnikovs, on peut aussi penser qu'une gendarmerie un peu musclée ou une police un peu musclée pourrait réussir à faire face. Moi, ma position, mais elle est très personnelle, c'est que l'armée de terre doit rester l'ultima ratio sur le territoire national et qu'il faut préserver des ressources pour que l'armée puisse être capable de se déployer si le besoin apparaissait. À l'heure actuelle, l'armée de terre et les armées en général sont tellement utilisées qu'il serait inenvisageable d'ouvrir un autre front. Or, on sait qu'il y a d'autres fronts qui menacent, notamment la Libye.
Pierre Alonso, est-ce que cette opération Sentinelle, elle vise davantage à rassurer la population? Est-ce qu'elle a une vraie mission de sécurité? Je pense notamment à ce blog de Michel Goya, qui est un colonel qui enseigne l'histoire militaire de la guerre à Sciences Po, qui a un blog La Voix de l'épée, et qui lui estime que voilà, ça fait bien joli l'opération Sentinelle, ça rassure les populations, mais en termes d'efficacité, zéro.
Paradoxalement, l'opération Sentinelle a aussi une forme d'efficacité policière, et qui est une sorte de conséquence inattendue, en tout cas, puisque c'est pas la fonction des militaires, mais on observe dans certains endroits une baisse de la délinquance ou ailleurs des interventions de l'ordre du maintien de l'ordre, précisément, de la part de militaires qui sont pas du tout ni formé pour ça, ni équipé pour ça. Ça veut dire que il y a eu des images, notamment à Strasbourg, lors d'une manifestation contre la loi travail qui avait l'air un peu tendue, d'intervention de militaires armés de FAMAS pour
qui est un fusil d'assaut,
pour calmer tout le monde, créant une sacrée confusion, sinon presque une forme de chaos. Et ça n'a évidemment pas dégénéré, parce que tout le monde a fait preuve d'énormément de sang-froid, mais on était à la limite. Et si à un moment on dépasse cette limite, s'il y a une rupture, je ne sais pas quelles pourraient être les conséquences, mais elles seraient à mon avis gravissimes.
Guillaume Larrivé, on arrive là avec ce que vient de dire Pierre Alonso, à l'un des cœurs aussi du rapport d'enquête que vous avez vice-présidé, je ne sais pas vraiment comment dire, avec le député Fenech et le député Pietrasanta. La question de l'articulation, finalement, entre l'outil militaire, l'outil... Il y a quelque chose qui a frappé dans ce qui est sorti dans la presse, c'est les policiers de la BAC, je crois, qui arrivent au Bataclan, qui ne sont pas, évidemment pas armés pour répondre à la menace terroriste, d'hommes armés de Kalachnikov. Ils vont voir les militaires et qui leur disent qu'ils ne peuvent pas intervenir. Ils leur demandent s'ils peuvent leur prêter leur fameux FAMAS, leur fusil d'assaut. Ils refusent aussi. Voilà, tout est dit dans cette anecdote qui est bien plus que cela.
Plusieurs niveaux de réponse, d'un point de vue théorique et ensuite d'un point de vue pratique. D'un point de vue théorique, rien ne s'oppose intellectuellement à ce que l'armée de terre ait une participation à la défense opérationnelle du territoire. Et pas du tout absurde que des soldats de l'armée de terre participent en effet à défendre le territoire national, d'un point de vue théorique. Ensuite, d'un point de vue pratique, et de manière très pragmatique, en regardant très concrètement quelles sont les missions et quels sont les corps d'agents publics, au fond, affectés à ces missions. Je pense qu'on a un problème avec Sentinelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en réalité, on fait faire à des soldats de l'armée de terre un job, une mission qui est plutôt un travail de patrouille sur la voie publique, parfois de garde statique ou de garde ennemie, qui sont plutôt des fonctions policières ou des fonctions d'ailleurs de militaires de la gendarmerie nationale. Donc je pense plutôt que dans la durée, je suis partisan que les soldats de l'armée de terre soient plutôt affectés à d'autres tâches qui sont des tâches de plus haute intensité, notamment naturellement des tâches de projection sur des théâtres extérieurs, plutôt que des tâches qui sont avant tout des tâches policière. Cela dit, pour apporter encore une nuance à mon propos, là aussi, il y a des effets de gestion de calendrier. Pour le dire de manière plus simple, il était utile qu'à l'instant T, pour renforcer le nombre de personnes en armes présentes sur le territoire national à l'instant T, il était utile que l'armée de terre soit là. Voilà. Dans la durée, je pense plutôt qu'il faudrait que l'armée de terre repasse le flambeau aux forces de police et aux militaires de la gendarmerie nationale.
Les deux autres intervenants parlaient de tâches de police ou de missions de police. Le problème, c'est que l'armée ne fait pas de mission de police. Et en particulier, dans le cadre de Sentinelle, les soldats, par exemple, ne contrôlent pas l'identité des personnes. Ils ne fouillent pas les sacs.
Et on voit aussi que les conditions d'intervention sont très strictes.
Ils sont plus dans une posture, en réalité, qui consiste à afficher, au péril de leur vie, le cas échéant, mais à afficher une présence en armes. Mais on a tous fait plus ou moins notre service militaire, en tout cas c'est mon cas, il y a déjà assez longtemps. On sait bien que c'est pas avec un FAMAS qu'on va gérer une opération dans une gare spontanément. Bon. Par ailleurs, il y a un autre sujet connexe, là aussi très pratique, et je suis tout à fait d'accord avec Bernard Cazeneuve là-dessus, il est tout à fait sain que les forces qu'on appelle de première intervention, c'est-à-dire concrètement les policiers de sécurité publique, aient dans leur voiture un équipement en armes un peu plus lourd que ce qu'ils avaient par le passé, et tout ça est en train de se faire progressivement.
Marc Ecker.
Oui, et je ne dis pas du tout que ce soit clair qu'il faut retirer tous les militaires des rues, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut revenir à un dispositif effectivement plus léger, et l'idée d'une défense opérationnelle du territoire me semble bonne. Mais en revanche, je pense qu'il faut sortir de la logique de l'opération qui se prolonge et dont on ne voit pas vraiment la fin.
Pierre Alonso, dans votre article que je citais en début d'émission, on voit, je le disais, l'incroyable complexité des services, des unités qui sont à la fois en charge de l'opérationnel, hein, d'intervenir, et puis du renseignement. Alors sur cette question de l'intervention, de l'opérationnel, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate que, par exemple, le patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, devant la commission d'enquête, explique que voilà, il a été très étonné de devoir se mettre à la disposition d'un groupe non spécialisé à compétences locales, alors que le RAID, lui, est à compétences nationales, est un groupe spécialisé. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses ? Est-ce que ça fait partie des problèmes fondamentaux ?
Il y a déjà un constat lucide qui a été fait par le ministre de l'Intérieur, qui était de reconnaître, alors qu'il a longtemps nié, qu'il y avait une guerre des polices, au moins au niveau des forces d'intervention, donc GIGN, gendarmerie, RAID et BRI.
On entend beaucoup parler de cette question de la guerre des polices qui à la fois affecte le renseignement et l'intervention. Donc on
et qui a été très aigu sur l'intervention, parce que ça se concrétise très facilement, très vite, qu'il faut prendre des décisions très rapidement, donc ça se voit tout de suite et ça laisse des traces. Et conscient de cette guerre des polices, Bernard Cazeneuve a proposé un nouveau plan visant à clarifier les zones d'intervention de chaque unité et l'articulation entre chacune d'entre elles. Néanmoins, il me semble que le rapport va plus loin puisqu'il s'interroge sur la possibilité de fusionner ces forces d'intervention. Donc les trois, ce qui est présenté comme un tabou jusqu'ici. Et le rapport se demande si finalement il n'y aurait pas une raison qui pousserait à la France confrontée à une menace inédite pourrait éventuellement aller au-delà de ce tabou. Moi, j'ai pas de réponse sur ce point, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, ce que je disais en début, mais je pense que c'est important de le garder en mémoire, c'est cette volonté de passer au-delà de tout ce qu'on considère comme dû, à savoir trois forces d'intervention. À savoir une DGSI toute puissante, un service de renseignement de la préfecture de police de Paris, dont on se demande pourquoi il existe encore. Bon, à savoir des RG, bon, qui ont été démantelés et qui sont un peu reconstitués. Enfin, voilà, il y a vraiment cette volonté-là dans ce rapport, et c'est ce qui est intéressant parce que c'est ce qui n'a pas du tout été fait jusqu'ici par les autorités.
Marc Hécard.
Un point là-dessus, effectivement, je ne vais pas me prononcer sur faut-il le faire ou pas, mais pourquoi est-ce qu'on a cette situation ? Alors, il y a plusieurs raisons. Un, il y a un héritage de l'histoire quand même, qui est important. Deux, il y a des cultures propres à ces différentes institutions, avec des spécialisations aussi. Donc il ne faut pas non plus nier cet aspect en fusionnant tout, en se disant avoir un gros truc
absolument,
qui va savoir tout faire.
Absolument.
Et puis, dernier point, il faut se souvenir aussi qu'il y a une question, j'allais dire, de précaution, parce qu'on ne présage pas de l'avenir. Et donner trop de poids à
absolument
un service peut être dangereux.
Guillaume Larrivé, pour conclure.
Là, je peux porter un témoignage d'ancien directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, plus que comme député. Je pense qu'il est sain que l'autorité politique ait face à elle, non pas un seul directeur administratif de l'ensemble de tout, mais plusieurs. Non pas pour encourager des concurrences ou des rivalités.
Pourtant, à l'étranger, on a le sentiment que c'est comme ça que ça se passe, qu'il y a un directeur.
Mais pour disposer de sources d'informations, différentes. Et là aussi, faut prendre garde à ne pas céder à une espèce de mécano administratif trop rapide qui consisterait aussi à désorganiser les services. En disant cela, je plaide pas pour le statu quo, mais je suis pas exactement sur la ligne du rapport. Par exemple, je ne crois pas nécessaire de créer une troisième direction générale au sein du ministère de l'Intérieur. Enfin bref, on pourrait développer
On pourrait développer. Et très rapidement, Pierre Alonso, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, moi je pense au contraire qu'il faut que les lignes bougent et beaucoup. Je pense que si on est en période de crise, la crise c'est le jugement, donc c'est le moment de la décision. Et je pense que c'est ce qui manque cruellement. Là, on est plutôt dans une phase de tétanie. Et malgré l'enjeu que ça représente, je pense que c'est au contraire le moment de la décision.
Merci à tous les trois, Guillaume Larrivé, Marc Hécard et Pierre Alonso. On va pouvoir lire votre rapport, Guillaume Larrivé. Dès demain, il sera rendu. Enfin, c'est pas votre rapport, pardon. Le rapport de la commission d'enquête à laquelle vous avez participé, c'est plus juste. Dès demain, sera public.
Et une contribution personnelle qui est parfois un peu dissonante.
Et oui, c'est vrai que vous n'avez pas eu l'occasion de marquer votre dissonance au cours de cette émission, mais on pourra vous lire sur la question. Merci également à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Alexandre Agege, Laurent Genepin, Tanguy Omri. À la réalisation aujourd'hui, c'était Véronique Villa. À la technique, Jacques Hubert. Le grain à moudre d'été, c'est à réécouter et à podcaster sur franceculture.fr.